Donc la semaine dernière, nous avons commencé une petite série sur 1 Corinthiens 8 à 10, et ça pourrait s'intituler cette série « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Faites tout pour la gloire de Dieu. Alors les Corinthiens avaient, il y a 2000 ans de ça, avec une question. Est-ce qu'il pouvait ou non consommer la viande sacrifiée aux idoles? Et l'apôtre Paul a répondu, et il a exposé un principe qui reste vrai aujourd'hui. Mieux vaut renoncer à sa liberté que de faire tomber dans le péché un frère ou une sœur faible dans la foi. Aujourd'hui, Paul, on va voir le texte qui continue, et Paul qui va répondre à une question que les Corinthiens ne se posent pas. Peut-on aller jusqu'à renoncer à ses droits et même renoncer à ses droits financiers? Au passage, Paul en profite pour aborder un sujet sensible avec les Corinthiens. Et peut-être aussi, nous aussi, on est concernés par cela. Alors, on va lire le texte. Je vais faire la lecture dans la version. Dans la version Nouvelle Bible Second. Donc, on est dans l'Épître aux Corinthiens, excusez-moi, chapitre 9, et on va lire du verset 1 au verset 17 pour ce matin. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas vous-même mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car c'est vous qui êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Voici ma défense devant ceux qui me jugent. N'avons-nous pas le droit de manger, de boire? N'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une sœur en tant qu'épouse, comme le font aussi les autres apôtres, les frères du Seigneur, et Céphas, Pierre, l'apôtre Pierre? Ou bien, sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler? Qui combat jamais dans une armée à ses propres frais? Ou qui plante une vigne sans jamais en manger le fruit? Qui fait paître un troupeau sans se nourrir du lait du troupeau? Mais est-ce en humain que je parle? La loi de Dieu ne dit-elle pas la même chose? En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Dieu a-t-il le souci des bœufs? En réalité, n'est-ce pas à cause de nous qu'il parle ainsi? Oui, c'est à cause de nous que cela est écrit. Car celui qui laboure doit labourer dans l'espérance. Celui qui foule le grain doit le faire dans l'espérance d'en avoir sa part. Si nous avons semé pour vous des biens spirituels, serait-il excessif que nous moissonnions chez vous des biens matériels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, ne devrions-nous pas en jouir à plus forte raison? Pourtant, nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous supportons tout pour ne pas créer d'obstacle à la bonne nouvelle du Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du temple sont nourris par le temple? Ceux qui servent l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a prescrit, ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de la bonne nouvelle. Quant à moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et je n'écris pas cela pour qu'il me soit attribué. J'aimerais mieux mourir. Personne ne réduira à néant mon motif de liberté, de fierté. En effet, annoncer la bonne nouvelle n'est pas pour moi un motif de fierté, car la nécessité m'en est imposée. Quel malheur pour moi, en effet, si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Si je le fais de mon gré, j'aurai un salaire. Mais si je le fais malgré moi, c'est une intendance qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est d'offrir gratuitement la bonne nouvelle que j'annonce, sans user réellement du droit que cette bonne nouvelle me donne. On va prier. Seigneur, nous sommes devant ta parole, nous sommes devant ce défi. Merci qu'elle puisse ce matin nous instruire, nous nourrir, nous remplir à travers elle de ton Saint-Esprit, pour nous renouveler, nous fortifier, et pour que tu parles à nos cœurs comme toi seul sais le faire. Nous voulons te prier, te remettre Marilyn, avec les enfants, Seigneur, accorde-lui la grâce d'avoir une bonne parole pour eux. Merci Seigneur qu'elle est là ce matin. Nous sommes reconnaissants Seigneur, dans ton bon nom. Amen. Alors Paul commence à déclarer qu'il est vraiment libre. Paul est-il un vrai apôtre d'après vous? Qu'est-ce que vous répondriez à cette question? Mais qui étaient les apôtres? Il y avait les 12, on les connaît bien. Et puis on voit qu'à un moment donné, Jésus envoie 70. 70 envoyés en mission. Et après, donc eux aussi, on pouvait les considérer comme apôtres. Jésus les avait envoyés. Et puis il y avait les 500 qui avaient entendu le grand commandement de sa propre bouche au moment de son ascension. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant tout ce que je vous ai appris. Et puis, il y avait l'apôtre Paul. Lui, c'était différent. Il avait rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Il témoigne de ça. Et là, Jésus-Christ était révélé à lui. Et là, Jésus-Christ l'avait envoyé vers les nations. Et son apostolat a été reconnu par l'Église, par les apôtres, par Pierre, par Jean, qui le considéraient comme l'un des leurs. Et on voit ça en Galates, chapitre 2, versets 7 à 10. Alors oui, l'apôtre Paul était un vrai apôtre, avec l'autorité apostolique. De plus, il avait fondé un grand nombre d'églises. Et c'est toujours quelque chose qui est très considérable, même aujourd'hui, que les hommes qui fondent les églises. Alors, le renoncement que Paul a enseigné, quant à savoir qu'il faut prendre soin des faibles en priorité dans l'Église, ne pas les faire trébucher, à combien plus forte raison cet enseignement est valable, non pas seulement pour les Corinthiens, mais pour nous aussi qui vivons au XXIe siècle. Et ce que l'on va voir est également valable aujourd'hui, bien entendu. Donc Paul est un vrai apôtre et il a vraiment droit à un soutien financier. Alors toutes les questions que l'apôtre Paul pose, bien sûr, la réponse des Corinthiens était oui. Et notre réponse à nous est aussi oui. Et par ces oui implicites, il conduit les Corinthiens à réfléchir. Paul a les mêmes droits que les autres. Pourquoi devait-il être considéré comme n'ayant pas les besoins fondamentaux comme manger et boire? On peut penser des fois, les pasteurs sont des gens spéciaux, hein. Ils vivent d'amour, d'eau fraîche, c'est leur choix, les corbeaux les nourrissent, Dieu prend soin d'eux. Paul a renoncé à tout confort, même au confort d'avoir une épouse à ses côtés. Et Dieu sait que cela est important. Pourquoi? L'autre argument de Paul, c'est du bon sens que l'on ne travaille pas à ses propres frais. Au verset 7. Moi, je travaille chez Patine, à Villefranche. Et puis là, j'ai un ordinateur sur mon bureau, un gros ordinateur. Mais je ne l'ai pas acheté moi-même. Hein. Je n'ai pas acheté l'ordinateur sur lequel je travaille. On a des soldats qui se battent au Mali, actuellement. Ce sont tous des volontaires. mais ils n'ont pas eu besoin de s'acheter leur casque, de s'acheter leur pare-balles, de s'acheter leur fusil et de payer même leurs munitions. Non, bien évidemment. Et puis, quand ils sont là-bas dans les opérations, ils ne s'arrêtent pas à 11 heures pour aller au marché du coin, s'acheter des légumes et se préparer ce dont ils auront besoin pour manger à midi. Hein? Non, bien évidemment que non. Et pourtant, c'était le cas de Paul. Pourquoi ? La Bible elle-même enseigne que ceux qui travaillent ont part au fruit de leur travail. Il expose bien ça du verset 8 au verset 13. Et c'est un principe absolu, et que Dieu même étend aux animaux. Un principe absolu. Celui qui travaille, ah ben il a droit à la part de travail qu'il fait. Certains se battent pour le bien-être animal. Bon, c'est certainement une bonne chose, mais à plus forte raison, les humains, eux, ont droit aux fruits de leur travail. Et il termine en citant les paroles de Jésus. Lui-même a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Et on peut voir ça à Matthieu chapitre 10, versets 7 à 10. Je vais vous le lire. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 10, pardon, versets 7 à 10. C'est au moment où il envoie justement les 12 à mission. Nous lisons ceci. Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et il ajoute, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni argent, ni or, ni monnaie dans vos ceintures. Ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni trésor. Et il ajoute, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Le serviteur de Dieu doit donner gratuitement et il doit aussi recevoir quelque chose en retour de son travail. Et Paul ajoute au verset 15, « Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. » Aucun de ces droits. Paul a renoncé à son argent ou le soutien qu'il devait avoir. Il a renoncé à son confort, il a renoncé à avoir une épouse. Et il en donne deux raisons ici et j'ai rajouté une troisième. On trouve une raison au verset 12. Des Corinthiens. On a lu ceci. Nous n'avons pas usé de ce droit, au contraire, nous supportons tout pour ne pas créer d'obstacle à la bonne nouvelle du Christ. Ne pas créer d'obstacle à l'Évangile. Alors, c'est toujours suspect un homme qui vous demande de l'argent. Hein? Moi, quand j'étais jeune, j'avais un ami. J'étais au Togo, je faisais mon service national et j'avais un ami qui était plus âgé que moi et il aimait bien me donner des conseils, de bons conseils. Et des fois, il venait jusque chez moi pour me parler, tout ça. Et il ne manquait jamais de me donner des conseils. Et moi, j'étais heureux de les entendre, ces paroles qui me semblaient sages. Mais au moment du repas, il était toujours là. Alors bien sûr, je lui disais « reste pour manger ». Et bien souvent, même, je lui ai donné de l'argent parce qu'il n'avait pas, il n'avait rien en fait. Mais il est difficile de construire de vraies amitiés quand il y a des relations de donnant-donnant. Paul ne voulait qu'il n'y ait aucun obstacle de ce genre à la diffusion de l'Évangile. Ce devait être gratuit, sans contrepartie aucun. Il a également, avec cette façon de ne pas prendre d'argent, il a également écarté les faux prophètes, verset 12. On voit que son autorité a été un peu dans notre texte bousculée. Il semblait qu'il y avait d'autres qui se disaient apôtres et d'autres qui récoltaient les offrandes des Corinthiens et qui les faisaient arriver dans leur poche. Voici plus tard, quand la situation est devenue beaucoup plus claire sur ces gens qui étaient à l'église de Corinthe, voici ce qu'il dit, voici ce qu'il a écrit dans la deuxième lettre qui nous est parvenue. 2 Corinthiens, chapitre 11. Ce n'est pas du tout le même ton, vous verrez. Je vais lire du verset 7 au verset 15. Donc, il est là, défendre son ministère, son apostolat. Hein. Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même, afin que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous, que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé d'être à votre charge et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe, la région de Corinthe. Pourquoi ? Parce que je vous aime pas, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous, dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Au verset 12, donc, les faux apôtres ne peuvent pas m'imiter là-dessus. Impossible pour eux que de renoncer à recevoir la cotisation des fidèles. C'est quelque chose qui me différencie et qui permet d'identifier personne, aucun d'eux n'est mon égal sur ce terrain-là. Et donc, de cette façon-là, ça lui permettait d'écarter les faux ouvriers, tous ceux qui voulaient faire comme lui, mais sur ce point-là, vivre, ne pas recevoir les cotisations, sur ce point-là, il était sans égal. Et puis c'est un choix personnel de l'apôtre, on le voit au verset 15 à 18 également. Paul avait fait un principe de renoncer à ce droit de prédicateur de l'évangile. C'était pour lui un sujet de fierté, mais pas un sujet d'orgueil. C'était pour lui renoncer à ses droits d'être soutenu par l'église dont il s'occupait. Renoncer à cela, c'était sa part. Il voyait ça comme le fruit de son travail. Donc, retenons qu'il n'y a pas que l'argent qui compte. Il y a des choses qui comptent plus que l'argent et plus que le confort qui va avec l'argent. On comprendra mieux la pensée de Paul dans le suite du texte. Je ne veux pas trop anticiper. Et l'église de Corinthe, elle, quelle image elle donne d'elle-même dans notre texte, mais on voit qu'elle manquait de maturité, hein, loin des yeux, loin du cœur, et il pensait avoir trouvé mieux que l'apôtre Paul pour les enseigner. Quoi qu'il ait fondé l'Église, ils avaient trouvé d'autres apôtres plus éloquents, plus brillants, qui présentaient mieux, mais qui n'annonçaient pas le scandale de la croix. On voit ça dans le début de la lettre. Ce message est difficile à entendre et à supporter, qui fait passer pour un fou, qui heurte. Il méprisait aussi quelque part l'abaissement de Paul. Paul était un serviteur de Dieu qui travaillait de ses mains pour pouvoir à ses besoins. Et dans le monde, un enseignement qui est donné gratuitement, ça signifie que c'est un enseignement qui n'a pas de valeur. Aller à l'école publique, c'est formidable quand on peut y aller. Mais pour avoir vraiment la bonne éducation, là, il faut aller dans des écoles privées. Et là, on a une meilleure éducation. L'école publique est gratuite, c'est pour tout le monde. Ça n'a pas beaucoup de valeur. Voilà la façon dont on raisonne. Et voilà peut-être la façon dont raisonnaient les Corinthiens. Mais l'argent ne compte pas à l'école de Paul. Le prix que l'on paye et le gain que l'on trouve ne sont pas financiers. Ils sont ailleurs. Les Corinthiens se voyaient dans des besoins, ne voyaient pas les besoins financiers pour l'évangélisation. Le travail d'évangélisation ne peut pas se faire si l'ouvrier du Seigneur doit prendre un travail séculier pour pouvoir manger tous les jours. Ça se comprend très bien, ils ne sont pas alors, comme on dit, à plein temps. Et le travail d'évangélisation va s'en trouver perturbé. Paul n'était resté que peu de temps en Macédoine. La Macédoine, c'est au nord de la Grèce, au nord de Corinthe, une région très différente. Et là, dans l'église de Macédoine, il avait été persécuté. Il était resté que, on ne sait pas, quelques mois maximum. Et là, on voit ces églises qui ont compris que ce qu'elles avaient reçu, pour que d'autres le reçoivent, il fallait que Paul ait de quoi survivre à ses besoins. Et elles se sont cotisées, elles faisaient, on l'a lu, envoyer de l'argent à Paul pour qu'il puisse apporter gratuitement la bonne nouvelle aux Corinthiens et que le travail puisse avancer. Ils avaient compris cela. Mais les Corinthiens, Paul avait passé peut-être un ou deux ans parmi eux à enseigner. Malgré tous les dons et les privilèges, ils sont restés spirituellement des enfants. Une église qui manquait de maturité. Et à Figeac, où est-ce que nous en sommes finalement? Si l'apôtre venait nous visiter, quel serait le diagnostic sur Figeac? Petite église rurale qui ne doit pas compter sur les autres. À nous de nous débrouiller avec les moyens de bord. Pour le local, on en a parlé. Pour le travail pastoral, on pourrait en parler. Pour l'animation des cultes, pour l'enseignement, pour l'école du dimanche, on voit que c'est pas facile. Pour le rayonnement de sur Figeac, on ne peut clairement pas se payer, comme on dit, se payer un pasteur à plein temps. Et d'un point de vue humain, si on vit, on vit, et si on crève, on crève. C'est comme ça. Comment l'apôtre Paul verrait cette situation? Curieusement, peut-être, il trouverait cette situation comme tout à fait normale. C'est normal. Il y a quelques années de ça, j'assistais à une formation de prédication à Genève, à l'Institut biblique de Genève, très connu, immense salle. Et là, l'enseignant était enseignant dans une grande école des États-Unis. Et il a présenté la préparation d'un message, d'une prédication, comme un travail qui devait être à plein temps. Toute la semaine pour préparer des messages de 30 minutes le dimanche. Et moi, j'étais effondré à ce moment-là. Mais je me suis dit, mais comment je peux y arriver? Moi, j'ai déjà un plein temps dans mon travail. Comment je peux y arriver? Et il m'a dit, écoute, tu as de la chance, tu as de la chance. Tu es dans les mêmes conditions que les anciens des temps apostoliques. Les églises n'étaient pas structurées, elles n'avaient pas de moyens, elles étaient petites, elles devaient grandir, certes. Mais tu, voilà, tu as de la chance en fait. Jusqu'à présent, cette pensée me console. Et elle doit nous consoler aussi, nous. Elle doit nous consoler. Dans une église de 100 ou 2000 personnes, si vous donnez 4 heures par semaine au Seigneur, c'est formidable. Mais cela n'a jamais pesé le poids de 4 heures de service dans une église de 10 ou 15 personnes. Dans une église de 100 ou 1000 personnes, si vous donnez une cotisation de 100 euros, c'est important. Mais dans une petite église, ces 100 euros, ça peut devenir quelque chose qui peut devenir même vital. Alors, nos renoncements ont un poids et une valeur. On peut comprendre et saisir. Et en fait, c'est une chance, on n'est pas nombreux, mais on doit aussi compter les uns sur les autres. Quand quelqu'un s'en va, c'est un drame. Quand quelqu'un s'en va dans une église de 1000 personnes, on s'en aperçoit pas. Mais nous ici, c'est un drame. Comment l'apôtre nous verrait personnellement? S'il était là, il parlerait peut-être à chacun d'entre nous, on voudrait tellement le recevoir chez nous. Alors, certainement, il y a plein de choses qui vont pas. Ouais, c'est certes. Il y a des choses qui ne vont pas, mais ces choses qui ne vont pas ne sont certainement pas à l'endroit où nous les situons. Je voudrais terminer avec un encouragement. Le Seigneur voit les choses différemment que le monde les voit. On l'a dit, pour lui, il n'y a pas que l'argent qui compte. C'était le titre de mon message, il n'y a pas que l'argent qui compte. Et devant tous nos renoncements, devant tous nos efforts et nos sacrifices, qui sont peut-être complètement, qui passent peut-être complètement inaperçus, il prépare lui-même une récompense. Il prépare lui-même notre salaire. Alors courage, persévérons au milieu de tous nos défis financiers et humains pour faire grandir l'Évangile au milieu de nous, pour faire rayonner le nom de Jésus autour de nous à Figeac. Nous ne sommes pas les seuls dans ce travail, mais prenons-y notre part et nous en aurons une juste rétribution le jour du Seigneur. Et ce ne sera pas financier. Prions. Seigneur, nous voulons crier à toi parce que tu es le Dieu qui est là. Tu n'es pas le Dieu lointain. Tu es le Dieu qui est venu marcher au milieu des hommes, qui par Jésus-Christ, ton Fils, est rendu serviteur de tous pour être au niveau de tous et pour pouvoir nous parler et nous atteindre tous. Merci parce que tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées ne sont pas nos pensées. Elles sont infiniment au-dessus de tout ce que nous pouvons concevoir. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons marcher par la foi. Nous voulons, Seigneur, te confier ce que nous sommes. Et il y a beaucoup de choses qui manqueraient à l'appel, Seigneur. Mais nous voulons reprendre courage ce matin et tout à nouveau te renouveler notre confiance et notre affection. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu as fait. Merci de ce que tu feras. Nous sommes faibles. Mais tu es un grand Dieu qui nous aime et qui n'oublie personne. Dans le nom de Jésus. Amen.